France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui...
Cédric Villani, mathématicien à l'université Claude Bernard Lyon 1 et président de la Fondation de l'écologie politique.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Il est assez peu courant que des scientifiques se posent la question du rôle de leur science dans la société. J'ai même l'impression très nette que plus ils sont haut situés dans la hiérarchie sociale, et moins ils ont tendance à remettre en question cette religion qui nous a été inculquée dès les bancs de l'école primaire. Toute connaissance scientifique est bonne, quel que soit son contexte, tout progrès technique est bon, et comme corollaire, la recherche scientifique est toujours bonne. Pas plus que mes collègues, je n'ai fait exception à la règle pendant près de 25 ans. J'ai consacré la totalité de mon énergie intellectuelle à la recherche mathématique, tout en restant dans une ignorance à peu près totale sur le rôle des mathématiques dans la société, c'est-à-dire pour l'ensemble des humains, sans même m'apercevoir qu'il y avait là une question qui méritait d'être posée. Ce n'est qu'au début des années 70 que j'ai pris conscience de l'ampleur et de l'urgence des problèmes écologiques et de la menace qu'ils font peser sur la survie de l'espèce humaine. Cette prise de conscience a été pour moi le point de départ d'une réorientation radicale de mes activités. Depuis lors, j'ai cessé toute recherche mathématique et je consacre la majeure partie de mon temps en militant pour le mouvement Survivre. Son but est la lutte pour la survie de l'espèce humaine et même de la vie tout court, menacée par le déséquilibre écologique croissant causé par une utilisation indiscriminée de la science et de la technologie et par des mécanismes sociaux suicidaires. Ces réflexions m'ont amené à prendre conscience de la responsabilité des scientifiques dans la situation critique où se trouve l'humanité aujourd'hui. Des lectures, des réflexions m'ont convaincu que la poursuite aveugle du progrès scientifique et technologique sans considération pour ses conséquences sociales et écologiques conduit notre humanité à sa perte. J'ai alors ressenti la nécessité impérative de m'engager activement dans la lutte pour la survie, en mettant mes compétences et mon énergie au service de cette cause. Ce texte est signé du mathématicien...
Alexandre Grothendieck, bien
Bravo,
évidemment.
Bonne réponse Cédric Villani, publié dans la revue Survivre et Vivre en janvier 1971. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu Vidard, ça fait plaisir de se retrouver.
Ça fait un sacré bout de temps, hein.
Ça fait un bail, 10 ans peut-être.
Ça fait 10 ans. Bah oui, vous avez fait de la politique, qu'est-ce que vous voulez?
Je me préservais pour vous.
Ah, c'est gentil. Donc vous avez plein de choses à nous raconter.
Oh là là.
Mathématicien passé en politique, revenu aux mathématiques. Et tout comme Grothendieck, vous êtes dans une phase de réorientation radicale de votre vie, hein.
J'ai toujours été en réorientation de ci, de là, avec des cycles qui durent entre 5 et 10 ans, et toujours en évolution. Je crois.
Et autour de l'écologie en particulier, on va en parler. Vous êtes notre invité, on va revenir sur votre parcours. Et pour revenir d'abord aux racines, on va écouter cette archive de octobre 1973. Le 5 octobre 1973, ce jour-là, c'est le jour de votre naissance à Brive-la-Gaillarde. Et voilà ce que l'on pouvait entendre sur la première chaîne de l'ORTF.
Monsieur le Président, on ne peut pas parler de l'automobile sans évoquer la pollution. En mars 70, j'ai entendu à Chicago votre discours sur l'environnement. Vous étiez prononcé pour des solutions internationales et pour une morale de l'environnement.
Oui, on me dit qu'on a fait des progrès, que la preuve en est que la pollution atmosphérique à Paris est plutôt moins forte qu'il y a quelques années, alors que le nombre de voitures était beaucoup inférieur. C'est un problème de prix. Il est évident que faire des voitures qui ne polluent pas, c'est faire des voitures qui risquent de coûter un peu plus cher. Par conséquent, il faut que les Français, les Allemands, les Anglais, les Suédois s'entendent pour parallèlement faire les mêmes efforts de façon à ce que la voiture pollue moins.
Voilà, le 5 octobre 1973, jour de votre naissance, archive retrouvée par Vincent Samuel des équipes de l'INA, le président Georges Pompidou, donc Cédric Villani, qui s'exprimait sur l'ORTF. Que vous inspire cette archive?
De façon très claire, je me dis, La science avance si vite, la politique, ça patine et ça patine.
Oui.
Les réflexions d'Alexandre Grothendieck sur les questions politiques semblent toujours parfaitement d'actualité. Son travail scientifique extraordinaire et merveilleux a été depuis longtemps dépassé, amélioré et ainsi de suite. Eh bien, pour les voitures, nous venons d'entendre ce qui est dit ici. D'une part, sur les problèmes de pollution, on aurait pu ajouter les problèmes de ressources et d'encombrement des voitures. Nous sommes toujours dedans. Et aussi ce problème de coordination internationale.
Mmh.
Si les Britanniques, les Allemands, les Italiens, aujourd'hui on dirait les Chinois, les Indiens ne le font pas, alors quel intérêt le faire, les Américains bien sûr. Et ce même argument, on l'entend toujours, aujourd'hui, sans cesse et sans cesse. Je voyais il n'y a pas longtemps un bel ouvrage de Lisa Neubauer, l'Atlas du climat, dans lequel elle a compilé à travers le monde des phrases de politique dont chacun dit si tel pays ne le fait pas, alors pourquoi se lancer dans la transition ? Et ça continue à s'appliquer de façon désespérante. Les humains n'ont toujours pas atteint l'âge de maturité en politique, ça c'est officiel.
Ouais, c'est ce qu'on dit d'ailleurs du rapport Meadows également. Tout était écrit là dans ces années 70, et puis finalement, on en est toujours à dire exactement la même chose. La question de la suppression de la voiture individuelle qui a été au cœur de votre campagne pour la mairie de Paris en 2019, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure.
Et ajoutons, on se souvient quand, ça c'était 73, 74, René Dumont faisait campagne à vélo en disant
ouais.
Mais les automobiles, c'est pas possible et tout ça. Et puis, à cette époque, ou un peu avant, un peu après, il y avait un texte d'André Gors pourfendant la bagnole.
Ouais, on va reparler de la bagnole d'ailleurs tout à l'heure parce que Macron aussi a repris ce terme qu'aimait beaucoup, qu'affectionnait Georges Pompidou. Cédric Villani, le grand public a fait connaissance avec vous, votre lavalière et votre broche araignée d'ailleurs que vous portez toujours aujourd'hui, en 2010, lors de l'attribution de votre médaille Fields, qui est l'une des récompenses internationales les plus prestigieuses en mathématiques. Est-ce que des mathématiciens, il y en a d'autres dans votre famille ?
J'ai un oncle professeur de mathématiques, un grand-père qui, sans être mathématicien, a été, dans son jeune temps, passionné par les sciences mathématiques, mais mes deux parents étaient professeurs de littérature et il y a beaucoup plus de littéraires que de scientifiques dans ma famille.
Mmh.
Et des profils pas forcément ni littéraires ni scientifiques. L'un de mes grands-pères était marin au long cours. Des métiers variés, mais je suis le premier à avoir fait carrière universitaire en mathématiques,
ouais,
à ma connaissance.
Et qu'est-ce qui vous attirait, vous, dans les maths, alors, au début ?
Vous savez, l'amour, ça s'explique pas. En tout cas.
Le coup de foudre, la passion.
Non, pas de coup de foudre. C'était dès le début et tout gamin. Vous savez, né dans une famille littéraire, ma maison était remplie de bouquins. Je lisais aussi bien les Donald et les Picsou que les Maupassant, Flaubert et tous les classiques. Mais tout gamin aussi, j'étais passionné par les petits ouvrages de vulgarisation pour les sciences, avec deux matières favorites depuis toujours.
Mmh.
L'une, c'est la mathématique, et l'autre, c'était la biologie, et spécialement
ah oui,
la fascination pour la diversité du vivant. J'avais ces petites fiches animaux, vous savez,
ouais,
le haï-haï, la goutti, qui sait quoi, toutes sortes d'animaux qui sont classés avec leurs particularités.
Darwin, c'était votre pop star, en fait.
Darwin, ma pop star. Je me souviens très bien de ce bouquin, La vie sur Terre, que je lisais, relisais à la gloire de Darwin, son voyage sur le Beagle, les explorations. Je revois encore toutes les illustrations avec les paresseux, les fourmis dans la jungle, tout ce que vous voulez. Et je rêvais en voyant ça. Ou un ouvrage de Disney qui s'appelait Désert vivant, dans lequel on voyait toute la richesse de la vie qu'on pouvait trouver dans le désert. D'ailleurs, bien des années plus tard, le nom de l'ouvrage un peu autobiographique que j'ai écrit sur la recherche mathématique, c'était Théorème vivant.
Ouais.
C'était une allusion pour moi à cet ouvrage Désert vivant. Et donc, ces ouvrages-là, ils m'ont accompagné. On dit souvent, et c'était le cas que les scientifiques sont marqués par leur lecture de gamins. Des gens aussi géniaux que Léo Szilard ou Alan Turing ont été marqués toute leur vie par un bouquin qu'ils ont lu à 10 ans. Pour Turing, c'était Les merveilles que chaque enfant doit connaître. Pour Szilard, c'était La tragédie de l'homme d'Imre Madak. Et moi, si je devais citer, je me souviens très bien de ces deux bouquins, celui sur la vie sur Terre que je vous évoquais avec Darwin et ce bouquin de vulgarisation mathématique dont j'ai oublié le titre, mais je revois très bien ce boulier sur la couverture, la vie de Gauss, les solides platoniciens qu'il y avait dedans, et ça me fascinait.
Donc c'est comme la matière et l'antimatière, il y a un petit excès de matière qui fait que vous êtes allé vers les mathématiques plutôt que vers la biologie ?
Non, après, vous savez, le système français traditionnellement, depuis toujours, je dirais, dans une nation scientifique, et une des nations qui ont le plus contribué à la mathématique dans le monde, fait que si vous êtes bon en maths, vous vous retrouvez naturellement amené à approfondir et encore. J'ai appris mon métier de mathématicien à l'école, et l'école publique tout du long. Je me souviens de tous mes enseignants, et je me souviens très bien que c'est avec M. Boss en classe de 4e que j'ai appris que c'était une démonstration, avec M. Vincent en classe de 3e que j'ai appris ce que c'était une structure algébrique, avec M. Denise en seconde, que j'ai appris à jongler avec les barycentres, et ainsi de suite. Et en mathématiques, vous avez ce phénomène que j'ai toujours apprécié. La discipline, en vrai, on croit qu'elle est lointaine, mais elle est proche de vous, parce que vous pouvez griffonner sur votre papier, chercher, vous endormir avec un problème et vous réveiller avec une idée. Et vous avez tous les ingrédients avec vous ou en vous, alors que en biologie, il vous faut un microscope pour étudier, ou des expéditions pour aller voir de quoi ça se passe. Mais en mathématiques, tous les ingrédients, vous les avez, vous pouvez vérifier, parfois même contredire le professeur s'il y a un bug qui se glisse dans
la. Ça vous arrive souvent de contredire votre prof, hein ?
Non, mais ça m'est arrivé. Et c'était pas facile pour moi, parce que j'étais ce genre d'élève super timide, dont on n'entendait jamais le son de la voix en classe, qui passait son temps à lire, très studieux, très bon élève.
Oui, parce que votre mère dit ceci, hein, Cédric pouvait lire le journal à 4 ans, ouvrait la bouche seulement pour dire des choses importantes, et s'embêtait tellement avec les enfants de son âge.
Je ne sais, peut-être...
Vous reconnaissez là-dedans ou pas ?
Je ne sais, peut-être qu'il y avait un peu de...
Mais vous vous souvenez de l'ennui familial avec vos congénères ou pas ?
Je me souviens, ennui, pas vraiment. Honnêtement, c'est possible, il faut toujours faire confiance à ses parents, donc ça c'est possible. Mais j'ai ces souvenirs, tenez, un souvenir cocasse. Je devais être au collège, je suis invité par une camarade. Il y a tout un ensemble de camarades qui font la fête, qui mangent, qui dansent. Et moi, je vais tranquillement fouiller dans la bibliothèque, dénicher un bouquin de biologie, commencer à le compulser. Et les camarades disaient, ah ben Cédric, c'est comme ça, c'est très bien, sans aucune nuance de rejet, pas du tout comme s'il était un extraterrestre, mais juste, c'est comme ça. Cédric, il aime lire et il est discret, timide. Ça m'a suivi, ça, cette image de timidité qui était réelle, jusqu'au baccalauréat, puisque...
À 16 ans, hein, quand même, le bac. Ans, hein. Vous décrochez le bac avec demi, la meilleure note de votre académie, 18 sur 20, ce qui vous vaut la qualification par un journaliste local de monument humain à la gloire de la timidité.
Ah ben voilà, vous êtes bien informé. Effectivement, je me souviens.
C'est grâce à Anna Massardier qui a préparé le dossier, vous savez. On a toutes les infos sur vous.
C'est comme en science, c'est important d'être bien entouré.
Absolument. Et ça, c'est un frein à vous, pour vous, en tout cas, la timidité ou pas ? Est-ce que cette bulle particulière, elle a été favorable justement à votre imaginaire, à vos pensées sur les mathématiques, par exemple ? Ou est-ce que socialement, ça a été difficile aussi pour vous ?
Mon cheminement, le parcours a fait que je me suis ouvert de façon extrêmement importante dans mes études supérieures. Alors, je pratiquais des activités sportives, j'étais en club de ping-pong et ce genre de choses, mais le vrai moment d'ouverture, ça a été les classes préparatoires. Ça peut sembler paradoxal, hein. On a l'habitude de s'imaginer les classes préparatoires comme le moment où on se coupe du monde, où on s'enterre dans une retraite monacale, mais j'étais avec plein d'autres jeunes qui étaient aussi passionnés, veillés, travaillés. J'ai découvert ce que c'était de travailler ensemble jusqu'à 2h du matin, préparer le devoir, préparer l'école et ainsi de suite. Et c'était juste passionnant. Après, il y a eu l'école normale supérieure où ça a été encore plus ouverture, où je suis devenu je connaissais la moitié des élèves personnellement. J'étais toujours dans les fêtes et responsable d'activités, où je suis devenu responsable du club spectacle.
Ah, vous étiez un fêtard.
Fêtard, responsable du club spectacle, grand amateur de track à travers son TTC jeu, à travers la nuit, où les cabines téléphoniques jouent un rôle particulier en exploration dans Paris, et puis président du BDE. Je me suis fait élire président de l'association des élèves à l'école normale supérieure. C'était en deuxième ou troisième année, je ne sais plus, 1994-95, j'étais en troisième année, et très très impliqué. Ça a failli être la fin de ma carrière scientifique,
mais
vous savez.
Mais pourquoi ? Qu'est-ce que c'est passé ?
J'aimais ça. Franchement, j'aimais ça, gérer le club, l'administration, le budget, les grandes assemblées générales qui se terminaient au milieu de la nuit, où on vous faisait plonger dans le bassin.
Ça aurait pu devenir un métier,
Et assez, j'avais mis ma thèse complètement en veille. Mon directeur de thèse m'a envoyé un petit mot vengeur, du genre, il faudrait peut-être se mettre au travail, à bientôt, j'espère. Mais finalement, j'ai été rattrapé par le col. Mes enseignants de l'époque, en particulier mon tuteur de l'époque, Yann Brenier, m'a fait miroiter un poste d'assistant professeur, d'agrégé préparateur, si je bossais bien, et ça a été comme le coup de fouet qui m'a remis sur ma thèse.
Et
je suis tombé, heureusement, et je suis tombé littéralement en amour du sujet de thèse qui auparavant m'était étranger. Vous savez, des fois, un mariage arrangé, ça peut arriver qu'on tombe amoureux. C'était le cas pour mon sujet scientifique. Et vraiment, l'équation de Boltzmann s'est mise à occuper mes pensées, s'est mise à me passionner à point que je vivais avec, je dormais avec. Et petit à petit, l'équation de Boltzmann, j'ai élargi mes intérêts dans une carrière de recherche internationale qui m'a amené à travers le monde entier, toutes les universités possibles, à faire des cours et des conférences dans 60 pays peut-être. Et avec...
Non mais ça c'est la fiche Wikipédia, Cédric Villani, donc on peut aller la lire, hein, parce qu'on aura, tout, on aura absolument tous les détails, parce qu'il faut arriver quand même à la médaille Fields, hein, 2010.
Elle est là-dedans.
Elle est là-dedans, grâce à cette équation de Boltzmann. Cette médaille, lorsque vous
Entre parenthèses, Wikipédia... Belle entreprise, et pour moi le seul projet d'Internet qui soit resté parfaitement fidèle à l'esprit initial.
Cette médaille Fields, lorsque vous faites le bilan aujourd'hui, elle vous a apporté quoi, au fond ?
Une reconnaissance publique extraordinaire et la possibilité d'être impliqué dans tant et tant de projets de la société, de la vie publique. Ça n'a pas été tellement un accélérateur pour ma carrière scientifique, au contraire.
Au contraire même, ça vous avez arrêté de faire de la recherche
absolument.
À ce moment-là.
Et puis j'étais directeur de l'Institut Henri Poincaré, dans lequel j'étais très impliqué. Donc après 2010, mon activité de recherche elle a été au compte-gouttes jusqu'à arrêter complètement pour l'histoire en septembre
dernier.
Et ça,
vous le regrettez ou pas ça ?
Non, parce que j'étais occupé à plein de choses passionnantes.
Parce que vous reprenez vos travaux sur l'équation de Boltzmann.
J'ai repris en septembre dernier.
Donc ça veut dire qu'il y a quand même une interruption de 15 ans là.
Presque 15 ans.
Et ça, vous ne le regrettez pas ?
Non, non, je me suis occupé à plein de choses passionnantes par ailleurs. En septembre dernier, effectivement, j'ai mis en ligne une prépublication en collaboration avec Cyril Imbert et Louis Sylvestre, deux autres mathématiciens, renouant avec mes amours de jeunesse sur l'équation de Boltzmann. Et c'était ma première publique soumission depuis plus de 10 ans.
Ouais.
Et non, pas du tout de regret. D'abord, pendant des années, j'ai pu faire vivre la fierté de ce que c'est que les sciences mathématiques à travers des ouvrages, à travers des projets parfois très personnels, de bande dessinée en rencontre avec Edmond Baudouin, l'ouvrage Théorème vivant, le musée mathématique de l'Institut Henri Poincaré.
Ça y est, vous êtes reparti dans votre fiche Wikipédia, c'est incroyable
non, mais
quand même. Hein.
Écoutez, j'ai le droit d'être fier d'avoir œuvré à ce musée.
Mais vos conseillers en communication vous ont appris aussi à faire des phrases courtes, à être rapide, c'est
vrai. Mais l'universitaire a toujours tendance aux phrases longues.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Cédric Villani se lance dans la course à la mairie de Paris.
Parti. Allez.
Première règle de la communication scientifique, communication tout court, commencer par l'émotion avant de s'adresser au cerveau.
Bien pratique pour se lancer en politique. D'autant qu'en 2014, bien avant de rallier Emmanuel Macron, Cédric Villani rejoint les rangs d'Anne Hidalgo.
C'est un soutien de poids pour Anne Hidalgo. D'ailleurs, il explique dans Le Parisien ce matin qu'il la soutient parce que son programme est scientifique, notamment en matière de transition énergétique.
Le futur, Cédric Villani l'a écrit en tant que soutien de la première heure au candidat Macron, puis en tant que député La République En Marche, avant de se lancer à la course à la mairie de Paris, quitte à se brouiller avec le parti qu'il a fait monter.
Cédric Villani, la politique, ça a été votre nouvelle obsession, ça, à l'époque ?
Moi, j'ai l'habitude, chaque fois que je suis dans un nouveau sujet, dans une nouvelle phase, de m'obséder. Et ça a été fait en recherche. Et c'est tellement important, la capacité de s'obséder pour faire son tour en recherche. Et je vois très bien, pour certains ouvrages, pour certains projets, le moment où vous êtes tellement enfoncé dans le problème que vous êtes imprégné, que c'est tout juste si vous n'en rêvez pas. Et j'ai souvenir d'une ou deux fois où, au réveil, un indice apparaît, exactement, le cerveau continue à travailler, et en politique aussi.
Donc l'obsession, c'est valable pour tout.
Obsession, et en même temps, l'obsession d'apprendre par la même occasion. Et oui, je suis un profil qui s'obsède facilement.
Ouais, sauf que tout le monde y a perdu un petit peu son latin quand même. C'est-à-dire que ce public qui vous connaissait comme mathématicien, tout d'un coup vous voit débarquer en politique avec des changements de cap, d'Emmanuel Macron à Anne Hidalgo, la mairie de Paris aux législatives. Bon bref, tout ça, ça a été un peu compliqué, et pour la communauté scientifique d'ailleurs aussi.
Ça a été compliqué pour la communauté scientifique, bien sûr. Pour autant, la communauté scientifique a vu aussi que la façon dont je continuais à parler de science et porter la voix du scientifique dans la société continuait à être celle de quelqu'un qui est fier de la science et de ses réalisations, et que j'étais très impliqué. Ils ont vu aussi que je me prenais des coups assez costauds à l'occasion, et donc j'ai jamais ressenti d'agressivité particulière en la matière. Et quand le moment est venu, après la fin de mon mandat parlementaire, de me relancer bien plus dans des conférences publiques scientifiques, dans des exposés plus techniques, tout est revenu comme naturellement et sans difficulté.
Un de vos anciens collègues, cité par l'Obs en 2019, déclarait « Cédric est un homme formidable, mais il a trop d'ambition, ça n'est pas pour rien qu'il a ses broches araignées, Cédric n'a pas 8 pattes, il en a 50 ».
Eh ben c'est pas mal.
Oui, enfin, il y a de la critique quand même là-dedans. Avoir trop d'ambition, par exemple.
Le 50 pattes, trop d'ambition, c'est l'interprétation. Mm-hmm. Et le collègue a le droit le plus complet de me critiquer comme ça lui chante.
Mais quel bilan vous faites quand même ? Est-ce que le style Villani, c'était compatible avec la politique ? Vous avez détonné là-dedans, vous n'avez jamais été accepté d'ailleurs par le milieu politique, vous avez toujours fait un petit peu l'objet d'un regard un peu étrange, non ?
Régulièrement, les collègues politiques venaient me dire à quel point c'était intéressant, utile par moment, d'avoir un profil comme le mien. J'ai passé 5 ans à la présidence ou vice-présidence de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'organe qui conseille et travaille avec le Parlement sur les dossiers scientifiques à fort contenu politique. Quand est arrivé le moment de la réélection en 2020, même si à cette époque-là, en 2020, j'étais en rupture de vent avec le parti, j'appartenais à aucun groupe politique, j'ai été réélu par mes pairs parlementaires à l'époque, à une écrasante majorité. Et ils me faisaient confiance. Et j'ai été réélu à ce moment-là président par les collègues de droite, de gauche, du centre, quasiment tous, me faisant confiance pour apporter à l'institution. Et c'est ce que j'avais fait avec leur participation, en recrutant des scientifiques à temps plein pour travailler au service de l'OPEXT, en travaillant sur des formats plus ouverts sur la société, plus interactifs, plus de sujets, des notes courtes. Et c'était l'un des sujets sur lesquels c'était intéressant d'avoir ce profil. Au bout d'un an, en politique, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait « Immersion » dans lequel je raconte longuement rapport d'étonnement de ce que c'est que le travail parlementaire, ce que c'est que l'articulation entre science et politique. C'était peut-être pour me complimenter, mais un jour où j'ai rencontré Jean-Louis Borloo quelques temps plus tard, il m'a dit « Ton chapitre sur le travail parlementaire, c'est le plus clair que j'ai jamais vu sur ce que c'est la valse des amendements et le travail des députés. »
Mais vis-à-vis du public, parce que votre propre conseiller, d'ailleurs, au moment de la campagne pour la mairie de Paris, dit « Tu dois parler comme tout le monde et paraître moins illuminé. » Ça veut dire qu'il y a une tentative de normalisation, parce que votre image, évidemment, elle est dissonante par rapport à ce milieu politique. Est-ce que cet enjeu-là, vous l'avez compris, est-ce que vous y êtes parvenu selon vous, ou est-ce que ça explique aussi, par exemple, votre échec à la mairie de Paris ?
Il y a bien des situations, quand vous êtes dans un contexte nouveau, où il est naturel de tâtonner et d'expérimenter, et c'est une valeur en tant que telle, je pense, l'expérimentation. Et s'il y a un truc que j'ai vu et compris en politique, c'est que j'avais besoin d'être aligné avec mon identité, sans chercher à travestir quoi que ce soit. J'ai eu tous les conseils, j'ai expérimenté.
Donc les cours de théâtre, les cours d'élocution, tout ça, vous avez pris ?
Alors, je suis aujourd'hui, j'appartiens à un club de poésie, j'apprends des poèmes et je les récite, et ça m'en rend heureux, et c'est très important.
Oui, mais à l'époque, pour
c'est
vos campagnes,
pas un problème.
À l'époque, c'était aussi pour essayer de...
Et c'est aussi quelque chose qui vous apprend, et dont vous tirez enrichissement. À la fin, il faut trouver. Alors, ce que j'ai compris, c'est que j'ai besoin d'être aligné pour que simplement ça soit crédible et que ça marche. Et en particulier, non seulement... Alors, par exemple, en plus, on ne vous fait pas de cadeaux. Le jour où mon coiffeur me dit « Tiens, je vais te couper les cheveux pour te donner une coupe plus dynamique », tous les adversaires me sont tombés dessus en disant « Il a changé de coupe de cheveux, c'est bien la preuve qu'il veut mentir et se dissimuler par rapport au public » et ainsi de suite. Donc, arrive le moment où vous dites « On laisse tomber ça, on abandonne tout ce genre de problématiques. » Et il y a le moment, en 2020 important, où j'ai compris, à l'époque où j'étais dans le groupe, les journalistes appelaient ça le groupe dissident, mais en tout cas, peu importe, groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, avec Mathieu Orphelin, Paula Forteza, Delphine Bateau et d'autres, et où j'ai compris, en travaillant dans ce groupe, en particulier sous l'influence de Delphine Bateau, que pour que ça marche pour moi, j'avais besoin de lire directement les sources importantes, sources scientifiques, sources politiques, de les travailler en amont, et j'ai passé à partir de là énormément de temps à lire des ouvrages par dizaines, par centaines, sur le fond, sur des ouvrages de science, des ouvrages de doctrine politique. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler tout le corpus de l'écologie politique.
Mais c'est aussi là où vous allez vous éloigner, au fond aussi, de la politique, d'une certaine manière, quand même. 2020, là, c'est cette période aussi de transition, donc il y a l'échec
La politique, c'est pas que des élections, chers amis. C'est aussi travailler
c'est
le fond,
être élu
travailler
aussi,
le programme.
Cas, c'était votre ambition.
Mais pas que. Politique et un parti, ça remplit trois fonctions, normalement. Préparer des élections, préparer des programmes, et mener la bataille culturelle. Et pour mener la bataille culturelle et pour des programmes, vous avez besoin de gens qui bossent et qui travaillent sur le fond. Et les années que j'ai passées, que ce soit pour la campagne, ou mon travail parlementaire dans la circonscription, ou dans les rapports parlementaires, ça a été des années de formation très importantes. Aujourd'hui, toutes les conférences que je fais, et j'en fais 100 ou 150 par an, il n'y a pas la moitié que je serais capable de faire si je n'étais pas passé par la case politique.
On va en reparler dans un instant, puisque vous poursuivez d'une certaine manière avec la Fondation pour l'écologie politique. Encore un mot, parce que pour la campagne à la mairie de Paris, vous étiez auto-déclaré futur premier maire véritablement écologiste, avec des dossiers par exemple, on en parlait un petit peu tout à l'heure, sur la voiture.
On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Mmh. Et moi, je l'adore.
Notre président qui déclare son amour pour la bagnole, démontrant par là qu'il a un demi-siècle de retard au moins sur les grands enjeux de notre temps, ayant visiblement pas compris que bagnole avec la béton et la bidoche, ça fait partie des trois mots qui infestent le monde et nous font courir droit vers la catastrophe.
Voilà, extrait du média Le Crayon, le 7 octobre 2023, après donc la déclaration de votre ancien ami Emmanuel Macron, et après la rupture avec lui, largement après. La bagnole, ça aurait été un de vos premiers dossiers, ça, à la mairie de Paris, justement ?
Bien évidemment, et on a ce grand dossier, aussi bien pour des questions de fluidité, d'emploi du temps, de ressources, d'énergie, de pollution, qui s'appelle la bagnole, la voiture, appelez-le comme vous voulez. Une des grandes, un des moments importants dans ma transition en 2020, où je me suis au-delà du militantisme chez Écologie, Démocratie, Solidarité, au-delà du fait de changer de communauté politique, c'est le moment où je me suis dit bon, c'est maintenant qu'il faut s'aligner, c'est fini les taxis, on va désinstaller l'application Taxi G7 Assemblée Nationale de mon smartphone, et dorénavant, c'est uniquement combinaison de vélo, de métro, de pied, de tout ce que vous voulez. Alors, comme je ne conduis pas,
c'était
pas
facile.
Une voiture personnelle, c'est plutôt facile, et dans la suite, cet alignement a été important pour moi. Parmi les grandes histoires de succès à travers le monde, des maires qui réussissent le plus profondément à transformer leur environnement, il y a ceux qui gèrent la mobilité. Alors, il faut évidemment mettre à l'actif d'Anne Hidalgo le fait qu'il y a eu une politique volontariste pour le vélo et qu'il y a eu une transformation qui s'est faite.
Est-ce que cette politique, elle est suffisante selon vous aujourd'hui, dans une grande ville comme Paris, mais pas seulement dans la capitale ?
Il faut toujours aller plus loin. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire.
Et qu'est-ce qui reste à faire à Paris, par exemple, Cédric Villani ?
Vous voulez qu'on parle et reparle de Paris. Mathieu, vous savez, je ne suis plus en campagne.
Mais vous y vivez, en fait, vous êtes là quand même.
J'ai déménagé aussi. Souvent.
Ah oui, c'est vrai, ça fait partie aussi, ça, de votre transition.
Ça fait partie de la transition.
D'avoir quitté la capitale.
2020, c'est le Covid. 2020 arrive le moment où il faut tirer des enseignements, je dirais, de cette situation très particulière. C'est le moment où je décide de devenir végétarien. Règle claire, simple. Ni viande, ni poisson, en me laissant 4 ou 5 repas de poisson par an ou quelque chose comme ça. Et pour quelqu'un qui avait travaillé sur bien-être animal, sur l'élevage intensif, sur tous ces grands sujets, c'était une façon d'être en alignement et de m'en sentir bien. Et c'est le moment aussi où je forme le projet, la campagne de Paris n'ayant pas été fructueuse, de découvrir ce que c'est que de s'installer à la campagne.
Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Les températures mondiales sont désormais sur le point de dépasser la limite cruciale de réchauffement. Selon Copernicus Climate Change Service, 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Elle est également la première année civile où la température mondiale a dépassé 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. D'après le service de surveillance du climat de l'Union européenne, chacune des 10 dernières années de 2015 à 2024 a été l'une des 10 plus chaudes jamais enregistrées.
Reportage d'Euronews aujourd'hui même. Cédric Villani, vous qui êtes notre invité au carré aujourd'hui, l'année 2024, la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850. Comment ils font entendre cette information qui ne fera pas la une de la presse, malheureusement encore aujourd'hui, mais qui pourtant est absolument essentielle à méditer.
Et on le savait, tout le monde le savait, ça fait longtemps qu'ils alertent. Jean Jouzel dit bien, quand il y a longtemps, quand il y avait 1990, les premiers rapports du GIEC, et Jean Jouzel se disait, mais au fur et à mesure que les preuves scientifiques seront là et que les conséquences seront là, ben, l'action politique viendra. Quelle erreur ! C'était la partie la plus facile, et pourtant ils ont fait un travail extraordinairement difficile, les collègues du GIEC. Mais dans une transition de société, la partie la plus dure, c'est la partie culturelle, politique. Suffit d'avoir été dans les grands colloques internationaux organisés par les Nations Unies, les COP ou les colloques annuels de Berlin, de Bonn, pardon, sur ce sujet, pour se rendre compte à quel point la partie politique a du mal à réagir.
Alors vous qui êtes devenu le président de cette fondation pour l'écologie politique, en quelques mots rapidement, mais c'est quoi finalement l'essence même de cette fondation ?
La Fondation de l'écologie politique a été fondée il y a une dizaine d'années pour apporter davantage d'écologie dans le débat public, en veillant d'une part à la question des archives et de la mémoire, les Dumont, Gorce et ainsi de suite, à la mettre en avant, mais aussi à faire des recherches au carrefour entre sciences humaines, sciences naturelles et sciences politiques, et puis à participer au débat public, à élever le débat public en matière d'écologie. Par exemple, je participe de temps à autre à des présentations de projets politiques. J'étais à la dernière fête de l'UMA, par exemple. Le Parti communiste m'avait invité à la présentation de son plan de décarbonation et j'ai réagi dessus en indiquant des choses intéressantes, des pistes, qu'est-ce qui me semblait être intéressant là-dedans. C'est ça le boulot de la Fondation, participer au débat.
Faire des recommandations, enfin, de quelle façon ça se concrétise réellement aussi pour que
des recommandations,
puisse,
des projets, par exemple. Nous avons un projet en cours avec le Club de Rome où il s'agira de faire à produire et aboutir les déclinaisons nationales, françaises, des grands scénarios à échéance 2050 et 2100 préparés par le Club de Rome, dans la même veine que ceux du rapport historique du Club de Rome, mais mis à jour avec des outils bien plus sophistiqués maintenant. Et c'est la Fondation qui s'occupe de porter ce projet dans sa déclinaison française, dans une démarche politique et citoyenne et universitaire.
Cédric Villani, comment l'écologie aujourd'hui peut s'imposer dans un monde qui va être dominé par des climato-dénialistes comme Donald Trump ou Elon Musk, et dont la violence et la force n'est que le seul langage aujourd'hui? C'est 1,5 degré de réchauffement, ils s'en foutent complètement.
Complètement. Et ils vont même vous dire que c'est la vie, c'est pas grave et qui sait quoi. Et c'est
donc comment on lutte contre ça aujourd'hui? Parce que c'est la vraie question quand même.
C'est une question politique bien plus que scientifique. Je dirais, scientifiques ont fait le travail, continuent à le faire, continuent à travailler. Et il s'agit de trouver le bon équilibre, la bonne façon d'éviter deux écueils. Les deux écueils qui sont l'un, baisser les bras en disant tout est foutu, et l'autre, croire que tout va s'arranger, comme par magie, par un grand cadeau du Père Noël, par les progrès techniques. Paraphrasant une citation célèbre de Poincaré, l'un de mes slogans, c'est croire que tout est perdu, ou croire que la technique va nous sauver, sont deux attitudes, l'une et l'autre également communes, qui nous dispense d'agir. Et donc c'est le boulot, arriver à mener le débat et montrer, en aussi montrant à quel point le futur écologique désirable, il est aussi bon pour vous, pour la santé. La transition, là je peux vous en parler de ce que j'ai fait, là, les quelques petites étapes personnelles que j'ai faites, ça a été ça m'a permis de me sentir tellement beaucoup mieux. Piocher dans votre jardin pour planter un nouvel arbre, vous sciez votre bois pour préparer un lit cabane pour votre gamine, vous vous occupez de préparer qu'est-ce qu'il va y avoir dans votre potager et comment vous allez cultiver telle ou telle chose, sont des choses qui vous font vous sentir bien.
Oui, mais ça c'est formidable, mais ça ne va pas nous permettre de lutter contre la domination et la puissance du mensonge, des réseaux sociaux, du complotisme, de la violence aussi, du fascisme. Comment on va parvenir à préparer la société à ce qui nous arrive là en ce moment? On voit ce qui se passe d'un point de vue géopolitique.
Il y a évidemment de puissance et d'affrontement. La géopolitique, pour avoir travaillé dessus, en particulier très impliqué sur l'affaire Assange ou sur les questions de plans nationaux et internationaux sur l'intelligence artificielle, on le sait, c'est dominé par la loi du plus fort, la force
Alors,
brute.
Alors, comment on lutte? Comment on
L'échelon
résiste face à ça?
Fort, puissant qu'il nous faut, ça s'appelle l'Union européenne. et je fais partie aussi du Conseil international du Forum européen de Halbach, qui a été créé en 1945 pour préparer et construire une Europe politique forte. Je suis un fédéraliste de très longue date, depuis 2010, militant, et pouvoir accomplir, avoir la force économique, technique, c'est au niveau européen qu'il nous faut le faire, l'accomplir.
Sauf que, Cédric Villani, quand on voit en ce moment la réaction des dirigeants allemands, par exemple, ou anglais, qui se font ouvertement critiquer par Elon Musk, avec une ingérence absolument inouïe et jamais vue...
Oui, il a même traité de fillette, alors aussi le
Et on voit le peu de réaction de l'Europe, on voit ces dirigeants politiques qui sont critiqués et qui sont quasiment dans leurs petits souliers aujourd'hui. Il n'y a pas de réponse de l'Europe, déjà, avant même qu'ils ne soient au pouvoir.
Il y a eu, je me souviens, Thierry Breton, s'empoignant.
Oui, il n'est plus là. Ben,
en tout cas, il avait raison de s'empoigner avec Elon Musk et on attend nos dirigeants européens qu'ils résistent et ne se lancent pas dans les polémiques et les combats stupides d'Elon Musk. Avec le gars était même allé jusqu'à proposer un concours de taille de pénis avec Mark Zuckerberg, qui à l'époque était son grand ennemi et qui maintenant semble lui manger dans la main. Et bien évidemment, c'est le boulot de l'Europe que d'être fort et de travailler à ce qu'est le projet européen, le seul continent dans lequel il y a un projet politique qui se dessine, où les valeurs d'humanisme, de durabilité, de bien-être et de respect des uns et des autres sont bien implantées. Il n'est pas parfait, certes, mais on n'a pas mieux. Et sans l'Europe, la France se fera juste manger au niveau international.
La France et l'Europe, d'ailleurs, aussi. En général,
sans la construction politique européenne forte. Alors, maintenant, l'Europe en tant que telle, que ce soit en masse économique, que ce soit en nombre de citoyens, en ressources culturelles, scientifiques, tout ce que vous voulez, si l'Europe est unie, elle n'aura peur de rien.
Même des algorithmes d'Elon Musk ?
Même des algorithmes d'Elon Musk. Et vous savez que...
Non, mais c'est pas une plaisanterie du tout, cette histoire d'algorithme, parce qu'on voit à quel point ça joue dans les élections, dans la façon dont les opinions, la société aussi, est manipulée d'une certaine manière.
Bien sûr, et les Italiens avaient innové. Le mouvement 5 étoiles, c'était le premier exemple, peut-être, de mouvement techno-populiste à dérive très droitière qu'on a vu arriver, qui ont été le modèle après pour d'autres. C'est très bien décrit dans le livre de Gino D'Aempoli et les ingénieurs du chaos. Et donc l'Europe aussi a ce genre de questions. Mais justement, c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens qui portent ce sujet technique en politique et qui font l'articulation. Je pense à un David Chavalarias dont tout le monde doit lire l'excellent bouquin Toxic Data, qui
Absolument.
Vous démontre le genre de choses. Et on est là dans la culture technique. Je passe une partie de ma vie à parler de ces sujets, dans les écoles, dans les lycées, dans les cercles économiques ou politiques. Et c'est pas un sujet dont il faut avoir peur, c'est un sujet qu'il faut prendre en main. Un collectif comme Data for Good, avec des gens comme Théo Alves d'Acosta, a fait un travail extraordinaire ces dernières années pour mettre l'algorithme au service des bons projets.
Ouais.
Au service du GIEC, au service du repérage de la fraude fiscale, au service du repérage de la désinformation, projets comme Quota Climat et ce genre de choses, au service du contrôle des océans. Ils ont travaillé avec Bloom sur le repérage par algorithme des chalutiers qui fraudent ou qui épuisent les océans.
Est-ce que finalement c'est une guerre des algorithmes là, qui s'annonce aussi, entre le bien et le mal, si
il
on veut faire quelque chose de très binaire ?
Il ne faut pas le voir comme une guerre des algorithmes, il faut le voir comme une guerre de projets politiques. Le problème, ce n'est pas la technique en tant que telle. Le problème, c'est...
Si, quand même. La technique modifie aussi la démocratie aujourd'hui, quand même, dans nos sociétés.
Mais le problème est la démocratie. Si vous avez un pouvoir politique fort... avec les chercheurs, il y en a de la compétence extraordinaire dans les universités, dans les organismes de recherche, qui peut se mettre au service, qui peuvent mettre leurs compétences algorithmiques au service des bonnes causes. Il n'y a pas de souci et de danger à avoir. Le problème, il est politique et que ces institutions, ces organismes aient les moyens. Regardez un organisme comme le GIEC qui fait un travail admirable, c'est un budget de quelques millions par an. 6 ou 7 millions peut-être, je ne sais plus, tout compris. En face d'eux, vous avez des masses phénoménales, des grands intérêts pétroliers, tout un travail de laboratoire d'idées conservateurs, manipulation, bien décrit dans les marchands de doute de Oreskes et Conway, dont le budget global cumulé international se compte plutôt en milliards qu'en millions.
Mais les algorithmes, la technologie, lorsqu'elle est mal utilisée, elle est dangereuse, justement.
Mais oui, mais cher Mathieu, si vous avez un acteur puissant qui va dans la mauvaise direction et qui a un milliard, et de l'autre côté un acteur qui va dans la bonne direction avec un million, l'algorithme s'y met au service des uns comme des autres. Le problème, il n'est pas l'algorithme. Le problème, il est que des intérêts puissants puissent agir avec tant de moyens. Et la décision, elle est politique. Et la question, c'est de donner plus de force et plus de moyens. Ben, à ces acteurs qui œuvrent à préparer un monde harmonieux, durable.
Et ce sera selon vous une façon de lutter contre l'impérialisme américain, par exemple ?
Il n'y a, pour lutter contre l'impérialisme des uns des autres, vous parlez de l'Amérique, mais on peut parler de la Chine, on peut parler de la Russie, on peut parler de tout ce que vous voulez. La seule solution, elle est politique. On ne résout pas un problème politique par une question technique. La question, elle est politique et ça demande de la conscience, de la confiance. Ça demande d'exposer les problèmes, ça demande de participer, de sans arrêt remettre les trois grandes questions. Être lucide, premièrement, lucidité sur les grands enjeux et leur analyse. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on aime ? Qu'est-ce qu'on a envie de sauver près de nous, autour de nous, à quoi on tient ? Et troisièmement, comment on s'engage ? Ouais, lucidité, amour, engagement.
Ouais, d'accord, ok. Et ça, dans un monde de brutalité, comme ce monde est en train de se développer, on a le temps de poser ces valeurs, là ?
Vous connaissez Miyazaki et son grand dessin animé écologiste Princesse Mononoke. Le héros, celui qui accomplit tant de choses et qui sauve le monde à la fin, c'est un guerrier, mais sans science de guerrier au service du bien, mais c'est un guerrier rompu à tous les arts martiaux. L'Europe doit être, en un sens, guerrière et pacifiste à la fois.
Donc on va faire une prise d'aïkido à Elon Musk et Donald Trump ?
Oui, on a cité leur nom beaucoup trop, hélas, à ce conglomérat phénoménal qui incarne tout ce qu'on peut imaginer de pire, mais le problème, il est politique, bien sûr. Ouais.
Enfin, Musk, il sera à Paris bientôt, hein, puisqu'il y a un grand congrès sur l'intelligence artificielle, donc ce sera aussi l'occasion de remettre ces sujets majeurs sur le devant de la scène, avec des enjeux aussi...
On ne va pas attendre qu'Elon Musk arrive pour en parler en long
bien
et en large, c'est une partie de
mais
ma
les,
vie.
Mais les enjeux de la transition écologique aussi, et ceux de l'IA, ils sont tout à fait liés, hein, puisqu'on voit en ce moment que cette transition numérique n'agit pas beaucoup pour la transition écologique, quand même. Hein.
Pour l'instant, c'est un ennemi de la transition écologique. Pour diverses raisons, on parle souvent des questions de consommation, des questions de ressources, mais il y a des effets indirects qui sont encore pires. Effets indirects sur l'économie, effets indirects sur la culture, effets indirects politiques. Prenez une entreprise comme Shein, qui incarne un peu le pire du consumérisme.
Grande entreprise chinoise du textile.
Très grande entreprise chinoise du textile, qui transporte à tout va, fabrique de la very fast fashion, comme on dit, qui engorge nos bacs de recyclage et ainsi de suite. Donc, intelligence artificielle, en venant soutenir dans tous ses aspects une telle entreprise, va apporter mécaniquement, si je dirais, plus de pollution, plus de transport, plus de consumérisme, plus de déchets, simplement parce que ça va soutenir dans tous ces aspects cette économie qui en tant que telle ne suit pas des buts vertueux. La question n'est pas tant l'algorithme que vraiment le fait de mettre en avant ce qui est vertueux, ce qui est respectueux. Respectueux des liens entre les humains, respectueux du vivant, respectueux des équilibres.
Donc vous défendez toujours l'algorithme, Cédric Villani ?
Mais c'est pas défendre l'algorithme. La question, c'est défendre les bonnes valeurs politiques et faire en sorte que les bonnes valeurs politiques, elles aient de quoi les ressources techniques. J'ai aucun problème à ce que les scientifiques du GIEC utilisent de l'intelligence artificielle pour améliorer leurs prédictions. Et à Bonn, au congrès l'an dernier, ils étaient très convaincants sur la façon dont ils vont utiliser de l'IA pour faire de meilleures prédictions. J'ai aucun problème à ce qu'une boîte que je conseille, que j'ai découverte avec passion, Mycophyto, utilise de l'algorithme pour faire des meilleurs diagnostics.
Sauf qu'il y a une empreinte carbone aussi de l'IA.
Tout est une affaire de bilan aussi. Si vous utilisez votre algorithme de façon raisonnée, que vous le prenez en compte et que vous le mettez au service de la permaculture, comme c'est le cas de Mycophyto, avec leur rhizome, leur réseau de champignons pour venir en hybridation avec les cultures, si vous le mettez au service de choses qui réparent, qui aident, c'est dans la bonne direction. De la même façon que j'ai aucun problème avec un diagnostic médical fait par l'intelligence artificielle, c'est là pour améliorer la santé du patient et qu'on sait et qu'on comptabilise combien a été dépensé.
Cédric Villani, ce sera ma dernière question d'ailleurs, vous avez repris vos cours en tant que professeur de mathématiques donc à Lyon. Ça, c'est un plaisir pour vous de retrouver aussi vos élèves ?
Toujours un plaisir d'enseigner. Les élèves Vous avez en face de vous, en université en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir toutes ces années en face de moi des élèves motivés, passionnés, en faisant toujours davantage que ce que je demandais. Et j'ai toujours été un prof avant d'être un chercheur.
Eh bien voilà, vous continuez donc cette année, en plus de cultiver votre jardin. Je signale une journée consacrée au mathématicien Alexandre Grothendieck à la BNF à Paris. Ce sera le 22 janvier prochain, au cours de laquelle sera diffusé d'ailleurs un film documentaire du réalisateur Hervé Nizy qui s'appelle « L'espace d'un homme consacré à Grothendieck ». Donc je vous renvoie aussi sur cet agenda du 22 janvier. Merci beaucoup à vous, Cédric Villani.
Merci Mathieu Vidard.
Merci à Anna Massardier qui a préparé ce dossier. On termine avec vos messages, c'est le répondeur.
Je suis Christine de la Creuse. Alors, je voulais pousser mon coup de gueule comme d'habitude. S'adapter au réchauffement climatique. Voilà un concept qui me fait doucement rigoler. Jaune, je précise. On ne s'adapte pas au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il est dû à l'action nocive de l'homme qui change la composition chimique de l'atmosphère, de l'eau, de la terre. Alors, on ne s'adapte pas au réchauffement climatique, on arrête nos conneries. Bonne journée, au revoir.
Bonjour, j'appelle de Bretagne, je suis sur Guingamp, je m'appelle Annie. Je voulais juste réagir, pas directement à votre émission, mais par rapport aux incendies, etc., de Los Angeles notamment. Et franchement, je suis écœurée par l'indécence des gens, là, genre Laetitia Hallyday et tous les autres, à pleurer sur leur maison, alors qu'il y a plein de pauvres gens qui crèvent tous les jours. Au revoir.
Bonjour, Daniel d'Ivry-sur-Seine. Je viens d'écouter l'émission sur la réédification et je tiens à vous faire part d'une visite que j'ai faite en Inde. Nous avons participé à 2 jours de colloques suivis de visites à des endroits où des rivières qui étaient à sec une partie de l'année coulaient maintenant toute l'année. On avait 13 rivières régénérées. Nous avons vu de nombreux réservoirs de stockage de l'eau de mousson. Sur les endroits où ils sont intervenus, 70% des terres arides sont devenues cultivables à nouveau. 10 000 km² de zones arides sont devenues à nouveau verdoyantes. La température moyenne a baissé de 2 degrés et 1 million de personnes environ sont revenues à l'agriculture. Donc on a une transformation absolument sidérante. Ce qui veut dire que la réédification n'est pas quelque chose de fatal et c'est quelque chose de sidérant et ça devrait être partagé très largement. Voilà, merci.
Bonjour, je m'appelle Laetitia et j'habite en Charente-Maritime. Je suis allée faire un voyage en Italie. Je rêvais de découvrir le marbre de Carrare. C'était mythique. Moi, je suis sculptrice et j'avais envie de mettre mes mains sur ce marbre. Et je suis arrivée tremblante et j'ai vu ce marbre et c'était magnifique. Et en fait, au bout de 15 jours, j'étais pressée de partir presque. Parce qu'en fait, c'est un vrai désastre écologique. Les blocs de marbre descendent de la montagne en continu, en continu, en continu. Et en fait, ce qui est exploité pour la sculpture, c'est peut-être à peine un petit pourcent. Et le reste, c'est du pavement, du plan de travail. Et c'est vraiment horrible, en fait, de voir à quel point on peut grignoter une montagne pour de l'argent et totalement délaisser une population qui s'inquiète, du coup, pour l'eau. Parfois, on se dit que la surexploitation, c'est forcément loin, c'est en Afrique. Et c'est terrible aussi, mais parfois, c'est pas si loin que chez nous. Au revoir.
Bonjour, c'est Alice de Saint-Vincent de Tyros. Eh bien, suite à l'intervention de Claire Nouvian dans votre émission, j'ai voulu voir à quoi ressemblait un petit poulpe à oreilles, puisque ça avait l'air bien mignon. Et malheureusement, quand j'ai tapé dans la barre de recherche poulpe à oreilles, on m'a proposé soit des boucles d'oreilles en forme de poulpe, ou bien des recettes de poulpe, ou bien des images de poulpe grillées au restaurant. Donc, capitalisme, quand tu nous tiens, malheureusement. Merci à Claire Nouvian pour tous ces combats et à vous pour vos belles émissions. À bientôt.